L'art thérapie bien-être vous est présenté et proposé par Véronique Brechler, psychosomatothérapeute avec comme spécialité l'art thérapie.
Pour tous ceux qui n'osent pas et pour tous ceux qui ne savent pas.
Véronique Brechler, bonjour.
Bonjour Marie.
Vous êtes thérapeute et vous proposez des ateliers psycho-bien-être dans tout le Val d'Oise. Comment tout a commencé votre carrière ?
C'est une reconversion en fait. J'ai d'abord été dans une première vie enquêtrice et pendant toute cette période d'enquêteur, je devais aller chez les particuliers. Dans cette première période, j'ai rencontré la population française, donc avec toutes les situations un petit peu très différentes les unes des autres au niveau des catégories sociales et aussi de toutes les cultures. Et derrière les portes, j'ai vraiment rencontré toutes sortes de catégories sociales et eu beaucoup de difficultés dans certains foyers. Et donc je suis souvent sortie de là après mes enquêtes qui étaient sur des sujets socio-économiques, un petit peu perturbée en me disant « bon voilà, ils se sont livrés, et maintenant qu'est-ce que je fais avec tout ça ?» Voilà, et au fil du temps, j'ai eu envie d'aller chercher des réponses à toutes ces questions que j'avais trouvées sur mon chemin. À l'âge de 46 ans, j'ai décidé d'aller faire une formation de thérapeute. Voilà, à l'école EPSA à Strasbourg. Donc l'école EPSA, ça veut dire École Européenne de Psycho-Socio-Somato-Analyse. Donc elle a été créée par un docteur psychiatre, le docteur Richard Meyer, qui a créé cette école et qui a été accompagné de sa femme Marie-Christine Piatowski. Donc c'est une école qui se fait en 4 ans, il y a 2 années de base et ensuite 2 années de perfectionnement.
Qu'est-ce que la psychothérapie avec la médiation artistique en lien avec l'art thérapie? Vous faites de la médiation sociale également. J'ai eu l'occasion de vous voir en atelier.
Oui.
Sur la ville de Persan, et vous avez une approche avec le public, que ce soit enfants ou parents ou famille ou groupe.
Oui.
Voilà, vous avez une certaine approche avec le public, et c'est pour ça que je parle de médiation.
Ah, d'accord. Donc en tout cas, effectivement, l'art-thérapie, c'est une spécialisation que j'ai faite après ma formation de thérapeute. C'est vraiment un atout pour travailler avec les enfants, surtout, dans le plaisir, dans le ludique, dans la créativité. C'est vraiment un outil qui donne un sentiment de liberté. Et derrière ça, en fait, c'est à ce moment-là qu'on peut, nous, les thérapeutes, les art-thérapeutes, on peut regarder un petit peu, avec un regard professionnel, qu'est-ce qu'il veut dire, ces dessins, ou ses créations. L'art-thérapie, en fait, on passe par plusieurs outils. On peut utiliser le dessin, la peinture, l'argile, ou aussi le corporel, donc la danse, ou le chant, ou le théâtre, les expressions corporelles.
Vous utilisez quel genre d'art ?
Alors moi j'aime bien essayer un petit peu de tout, hein. Vraiment j'ai la chance d'avoir beaucoup d'idées et donc j'utilise vraiment tous ces outils parce qu'en plus je me fais plaisir aussi.
Mm-hmm.
Voilà, donc
tout ne s'apprend pas en formation, il y a le terrain aussi.
Il y a le terrain, puis je pense la personnalité aussi.
De chaque personne ? On est
du thérapeute
unique.
Déjà, et puis l'interaction entre effectivement les personnes en face ou le groupe. C'est jamais la même histoire avec l'individuel ou le groupe.
Est-ce que ça vous arrive de suivre un groupe sur plusieurs mois ? Comment ça se passe, vos ateliers ? Et c'est à quel rythme ?
Alors en fait, j'essaye de faire des groupes tous les mois. Alors, en fait, dans mon travail, je travaille ou avec des enfants en institution, ou avec des adultes plutôt en extérieur. Donc, comment ça se passe ? J'essaye de faire chaque mois un thème en rapport avec le mois en cours. C'est-à-dire qu'en janvier, je vais surtout faire un stage sur la nouvelle année. La nouvelle année qui est en cours, et donc un stage aussi qui parle de l'année que l'on vient de quitter, et puis dans l'idée de projeter ce qu'on souhaite faire sur l'année nouvelle. Ça, c'est pour janvier. En février, je travaille sur le couple en rapport avec la Saint-Valentin. Donc on fait des stages de couple. En mars, avril, on fait plutôt un stage sur le carnaval. Donc on travaille le masque, le fameux masque que l'on met tous les jours. À la période du carnaval, on essaye de l'enlever.
Oui, on pense que ça ne se voit pas.
C'est ça.
Souvent, ça arrive.
Justement, et la période Covid avec le fameux masque a justement beaucoup parlé, puisque certains ont eu beaucoup de mal à l'enlever chez les jeunes, dans les collèges. Beaucoup de jeunes se sont sentis en sécurité derrière ce masque. C'était impressionnant.
Les valeurs qui guident votre travail sont celles du respect de la personne. Et le suivi se construit ensemble. Vous installez un climat de confiance avec les participants qui viennent à vos stages, à vos ateliers.
Alors absolument, donc là vraiment c'est la première chose, hein, mettre la confiance pour pouvoir travailler. Parce que s'il n'y a pas de confiance, le travail n'est pas possible en fait. Donc ça, la bienveillance, la confiance, le non-jugement, toutes ces valeurs sont vraiment prioritaires. Alors, à ce sujet, dans notre association Atelier Psycho-Bien-être, on a un slogan qui est « Pour tous ceux qui n'osent pas et pour tous ceux qui ne savent pas ». Ça reflète bien notre philosophie de devenir vraiment libre et sans attente. Il n'y a pas de recherche esthétique, c'est plutôt dans la profondeur du travail, dans l'éveil des sens. Donc c'est pour ça que je mets toujours une musique qui accompagne aussi les ateliers.
C'est ce que je voulais vous demander. Quand on pense à thérapeute, on pense à des bougies allumées dans une pièce sereine, de l'encens également, et avec une musique douce. Ça se passe comme ça dans vos ateliers ?
Oui, vraiment, la musique pour moi, dans mes ateliers, elle a vraiment un rapport avec le travail que l'on fait. Parce qu'on peut travailler le masculin, donc ce sera des musiques beaucoup plus rythmées. Et lorsqu'on travaille sur le féminin, on aura des musiques beaucoup plus douces, voluptueuses.
Comment vous avez fait la bascule entre enquêtrice et thérapeute ? Vous vous attendiez à changer de métier ?
Le souvenir que j'ai, j'avais 19 ans, j'avais mon premier appartement, j'avais beaucoup de jeunes filles, des amis, des copines, enfin, des copains, j'avais beaucoup de monde qui passait à la maison. Et tous me racontaient leur vie et maman me disait « tu devrais faire assistante sociale ». Voilà, donc peut-être que j'avais déjà ça en moi quelque part. J'ai pas choisi assistante sociale, mais j'ai fait le choix d'être plutôt thérapeute.
Vous êtes à l'écoute ?
Oui, ça, je crois que j'ai cette capacité. Oui.
Quand vous intervenez auprès des enfants, vous intervenez auprès de combien d'enfants, d'un groupe de combien d'enfants ?
Alors le groupe, en fait, il varie suivant les enfants, en fait, parce qu'il y a des enfants qui sont extravertis et qui sont vraiment avec des caractères turbulents. Et dans ce cas-là, vaut mieux un petit groupe pour qu'eux-mêmes puissent trouver leur place et que ce ne soit pas l'éducatif, désagréable, à leur demander de se calmer. Donc là, quand on a des enfants un petit peu turbulents, c'est mieux d'avoir un très petit groupe et puis vraiment de leur laisser une place en dehors de l'école, qui fait qu'on est toujours obligé de les reprendre. Donc là, en petit groupe, on arrive à leur laisser beaucoup de place et de les laisser s'exprimer pour entendre et dire ce qu'ils ont envie d'exprimer. Par contre, quand on a des groupes qui sont beaucoup plus calmes, qui ont besoin, eux, de trouver une place, justement, donc là, on peut être 8 à 10 enfants. Donc ça dépend vraiment de ce qui se passe dans le groupe.
L'art-thérapie. Et quel est l'objectif de vos ateliers ? Pour les participants et pour vous, est-ce que l'objectif est le même ? Ou peut-être que vous en avez plusieurs ?
Alors, l'objectif, en tous les cas, pour le résultat que l'on a remarqué déjà sur le terrain, derrière le travail de thérapie, certains enfants, et même adultes, retrouvent la confiance en eux qu'ils avaient perdue ou qu'ils n'avaient jamais trouvée. Donc il y a quand même surtout un travail de recherche de la confiance en soi, surtout dans l'art-thérapie, parce qu'à force de s'amuser et de laisser libre sa créativité, on peut découvrir que finalement on a caché quelque part en nous la créativité qu'on n'avait pas idée en fait. Mmh.
Vous êtes en quelque sorte une professionnelle de la relation du soin. Ça apaise les enfants?
Oui, les ça apaise les enfants et dans l'autre sens, ça les fait s'ouvrir aussi. Mmh. Donc, par le même biais, on peut trouver justement l'opposé. Dans un enfant trop extraverti, on va pouvoir le canaliser. Mmh. Et pour un enfant qui est introverti, on va pouvoir un petit peu l'ouvrir. Ça peut l'aider pour les examens en oral, trouver sa place dans la fratrie aussi parfois.
Vous faites des ateliers avec des personnes en situation de handicap ?
Alors effectivement, oui. Donc là aujourd'hui, depuis 2 ans, je travaille dans un programme de réussite éducative mis en place par certaines villes qui ont des quartiers prioritaires, dans des centres socioculturels et aussi en résidence intergénérationnelle.
Alors, comment ça se passe concrètement, le nombre de participants, l'âge et qu'est-ce que vous faites dans ces ateliers-là?
Alors, la plupart du temps, on commence surtout par le dessin. C'est vraiment... Enfin, je parle surtout avec les enfants, hein, parce que les adultes... c'est encore tout à fait autre chose. Mais avec les enfants, donc on commence par quelque chose qu'ils ont l'habitude d'utiliser, en fait, dans l'idée de pour qu'ils se sentent à l'aise. Donc on commence par un dessin avec un thème. Ça peut être « dessine-moi ta famille ». Et donc on pourra regarder à peu près où ils se placent, comment ils se placent, comment ils placent les parents. Ensuite, on pose des questions.
Et pour les adultes, de dessin pour nous.
Si, bien sûr, mais plus de la peinture peut-être. On part plutôt sur la peinture.
Donc là, sur la... C'est plus facile pour un enfant de s'ouvrir qu'un adulte, de pratiquer l'art thérapie, de participer à un atelier d'art thérapie.
Alors, je dirais que les enfants, ils viennent souvent parce qu'on leur a proposé et que le mot peinture, dessin ont pu les intéresser. Alors que les adultes, eux, ils savent déjà à peu près pourquoi ils viennent. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu de personnes qui ne savaient pas pourquoi ils venaient. Mm-hmm. Je parle au niveau de l'artistique derrière l'art thérapie. Donc c'est vrai que les adultes, eux, vont venir avec un but, souvent, sur lequel on va travailler.
On fait surtout travailler son imaginaire dans vos ateliers.
En fait, on ne s'en rend pas compte. Mmh. En fait, je les guide avec un thème. Parfois, chez certaines personnes, un temps d'arrêt, où ils mettent la fameuse barrière qui dit ben, « je ne sais pas comment je vais faire ça ». Donc on travaille avec eux en leur expliquant que c'est les premiers mots qu'il faudrait enlever et se laisser aller, prendre le temps qu'il faut en laissant les pensées venir. Comme lorsqu'on était enfant, on est tous passés par la rédaction où on nous donnait un sujet. Certains enfants savaient tout de suite répondre et d'autres étaient bloqués. Mais rares sont ceux qui ont donné une page blanche. Donc je prends souvent cet exemple en disant « Rappelez-vous la rédaction quand vous aviez un sujet. Parfois, vous ne saviez pas à quoi répondre derrière. » Et puis, finalement, les idées arrivaient les unes les autres. Et c'est tout ce que je demande dans l'art-thérapie. Laissez passer les idées, les pensées qui viennent et posez-les sur le papier.
L'objectif de l'art-thérapie, c'est pas de créer une œuvre. Est-ce que c'est déjà arrivé ?
Bien sûr, il y a des personnes qui se sont découvertes, qui ne savaient pas du tout, qu'ils savaient dessiner, peindre, parce qu'ils n'avaient jamais osé.
Ça rejoint le slogan de votre association.
C'est ça. Pour tous ceux qui n'osent pas, pour tous ceux qui ne savent pas.
Ce slogan, est-ce que vous le rappelez aux participants ?
Bah, le plus souvent possible, oui.
Ils disent quoi ?
Bah, je crois que c'est ce qui les fait venir, souvent.
Depuis le début de votre carrière de thérapeute, vous proposez des ateliers uniquement dans le 95.
Alors, dans le 95, et je travaille aussi avec certaines communes du département 60.
Ah, vous êtes dans l'Oise également. Oui. Dans vos ateliers, vous faites de la peinture, du dessin, vous créez des masques aussi.
Le fait de poser nos propres pensées, souvent c'est notre inconscient qui se dépose. Et c'est à nous, les thérapeutes, les art-thérapeutes, de travailler avec ce qui est déposé.
L'art-thérapie.
Pour tous ceux qui n'osent pas et pour tous ceux qui ne savent pas. Ceux qui n'osent pas et pour tous ceux qui ne savent pas.
Véronique.
Oui.
Mais vous n'avez pas mangé votre croissant.
Pour l'instant, j'ai pas faim.
On en était où ? On parlait de l'art-thérapie, c'est passionnant.
Merci.
On adore la peinture. Les enfants aiment beaucoup faire des dessins. On en a tous fait quand on était enfant. Aujourd'hui, adulte, on peut en faire dans vos ateliers. On vous en propose également. Le prochain atelier, ce sera où et ce sera quand ?
Pour les adultes et pour monsieur et madame tout le monde, ce sera le 2 juillet, un dimanche, de 9h30 à 18h. Donc ensemble, on va créer chacun une petite sculpture. Et dans l'idée, à la fin, on aimerait coller toute cette sculpture ensemble pour faire une grande sculpture. Et sur le même thème, je vais aussi réaliser avec des enfants de quartiers prioritaires pendant cet été, dans les quartiers d'été, du 17 juillet au 24 juillet. Le même projet, mais alors sur plusieurs jours. Quand on fait des stages comme ça en plusieurs jours, en fait, on ne fait pas que la création du projet initial. Donc, on rajoute un peu de danse, on rajoute des temps de parole.
Sur la ville de Persan ?
Non, sur la ville de Méru.
Sur la ville de Méru, vous intervenez souvent là-bas ?
Oui, c'est ça. C'est les deux villes avec lesquelles je travaille actuellement, Persan et Méru, et j'ai bien l'intention de travailler avec d'autres prochainement.
Vous allez proposer cet art aux Méruviens ?
Oui, aussi.
C'est bien ça qu'on dit ?
C'est bien ça.
Aux Méruviens. Vous allez travailler avec quoi ? Vous allez travailler avec un objet ?
Oui, le bois flotté.
Le bois flotté. Alors, le bois flotté, c'est un bois qu'on ne retrouve pas partout. Par exemple, juste à la sortie du studio, il y a des arbres. Si je casse une branche, c'est un bois flotté ?
Absolument pas. Le bois flotté, en fait, il a, comme son nom l'indique, il a été usé par l'eau. Il a été travaillé par l'eau et du coup, il a une espèce de texture qui est beaucoup plus douce, avec un toucher particulier.
Dans l'eau salée ?
Dans l'eau salée.
Uniquement, pas dans les rivières ? Non.
Ça peut être dans les rivières, mais enfin, dans l'eau salée, c'est beaucoup plus...
D'accord, donc vous êtes allé à la mer pour le récupérer ?
Alors, on a fait des séjours dans la mer, effectivement, pour aller en récupérer. Mmh. Mais on a trouvé aussi au bord des rivières, quand même. On a trouvé quand même du bois aussi au bord des rivières.
Vous avez l'habitude de proposer des ateliers avec le bois flotté ?
Alors, pour l'instant, je travaille toujours avec des nouveaux matériaux.
Ah, c'est une expérimentation.
C'est ça. Donc, en fait, j'ai déjà fait moi-même un premier stage en tant que participante il y a très longtemps. Donc cette fois, je le mets en pratique dans mon travail de praticien.
C'est un bois qui flotte toujours ?
Non, on le retrouve. On le retrouve sur les plages ou sur les bords des rivières.
Alors, avec le bois flotté, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, je suppose que c'est un bois qui est très léger.
Voilà, il est léger et surtout, il a différentes formes. Et suivant la forme qu'il a pris, qu'il a, par rapport à la branche qu'il a créée au départ, eh bien, on laisse l'imaginaire proposer quelque chose qui est en rapport avec cette branche et l'histoire de la personne qui va l'utiliser.
On reconnaît le bois flotté par rapport à sa couleur,
texture, oui.
À sa couleur aussi, un peu clair.
Un peu clair, oui.
Et il y a des formes arrondies.
Oui, arrondies ou pas. Grugueuses, mais quand même qui ont été lissées par le temps. Mmh. Mais elles peuvent quand même avoir été plutôt pointues au départ.
Si on ramasse du bois mort en forêt, on peut en faire du bois flotté ?
Non, parce qu'il a une autre humidité. Le bois de la forêt va être humide alors que celui-ci est plutôt sec, malgré le fait qu'il était dans l'eau.
Le bois flotté fera partie de votre prochain atelier que vous allez proposer très bientôt ?
C'est ça.
C'est quand ?
On va faire une journée création d'une sculpture en bois flotté le 2 juillet, un dimanche. De 9h30 à 18h. On a un projet à vous proposer. Donc on propose aux premiers participants qui appelleraient Alternative FM de venir à notre atelier gratuitement. Voilà, c'est un cadeau qu'on offre aux premiers...
Au premier auditeur qui appellera.
C'est ça.
Alors, il y en a plein qui vont appeler Véronique. Donc, il doit appeler et me dire qu'est-ce que c'est que le bois flotté. L'histoire, donner l'histoire. Est-ce que ça a une histoire?
C'est ça.
Oui.
Tout à fait. Alors, le bois flotté, en fait, c'est les vertus du bois flotté qui ont été reconnues depuis des millénaires à travers le monde. En Scandinavie, il fait depuis longtemps partie des croyances locales, notamment par les contes de Ask et de Ambla, les premiers êtres humains d'après une mythologie scandinave qui aurait été créée à partir de bois flotté. Alors, pour de nombreuses populations très éloignées des forêts, il a représenté le seul moyen de s'approvisionner en bois durant des siècles. Il a été utilisé pour la fabrication des constructions, des habitations. Voilà, c'est toujours le cas au Canada et dans certains pays nordiques. Voilà, et des mobiliers en tout genre. Donc ici, nous, dans notre civilisation, on l'utilise surtout pour faire des décorations. Mmh. En ce moment, c'est très à la mode. On trouve ça dans les magasins de mode. On trouve beaucoup le bois flotté en sculpture. Voilà, ou en différents objets de décoration, souvent. Ouais.
Ça va plus loin que ça.
Alors pour nous, en tout cas, l'idée d'avoir utilisé le bois flotté, c'était toujours par rapport à la mythologie nordique. Mmh. Alors, c'est une belle histoire. Alors, c'est l'histoire d'un arbre qui s'appelle Yggdrasil. Et cet arbre, il est constitué de 8 branches. Donc, il y a la première branche avec un monde au bout de cette branche qui s'appelle le monde Asgard. Donc, c'est la tribu des dieux et des déesses. Il y a le monde sur notre branche Midgard. Donc, ce sont les êtres humains, il faut bien retenir, Midgard. Vanaheim, c'est une autre branche, c'est la demeure des dieux et des déesses. Jotunheim, c'est les géants, le monde des géants. Niflheim est connu dans le monde primordial du brouillard, de la glace, de la brume, du froid et des ténèbres. Mulpelsheim, c'est la demeure des géants du feu. Alfheim, c'est les êtres semblables à des demi-dieux qui sont décrits comme lumineux et plus beaux que le soleil. Svartalfheim, c'est les nains. C'est la demeure de la déesse El qui sert généralement à désigner le monde souterrain et résidant les morts. Voilà, alors donc dans ces 9 mondes, il y a eu, comme toujours, des événements du temps. Donc il y a eu le feu, donc l'arbre a pris feu et ensuite la mer a recouvert l'arbre. Donc il y a eu la fameuse eau qui a donc apporté le fameux bois flotté sur le rivage. Et de ce tronc d'arbre, il y avait une faille. Et dans cette faille est sorti un homme et une femme qui ont la chance d'avoir les fameuses 8 caractéristiques de chaque branche d'arbre. Voilà l'histoire qui nous a plu et on est parti de là pour faire notre future sculpture ensemble le fameux 2 juillet.
La taille n'est pas encore définie, vous ne savez pas à quoi va ressembler cette sculpture. Est-ce qu'il y a un point de départ?
Je pense que le point de départ ce sera le nombre de participants parce que plus on sera, plus l'arbre aura des branches.
Vous offrez aujourd'hui au premier auditeur qui appellera une entrée gratuite à cet atelier. Donc cet auditeur va devoir répondre à une question quand même. Hein. On va lui poser une question.
Combien y avait-il de branches sur l'arbre?
Voilà. Si il arrive à répondre à cette question, je pense que c'est tout à fait possible parce que vous venez tout juste de donner la réponse. Deuxième question. Quel est le seul bois qui ne flotte pas?
Vous êtes bien les auditeurs.
Et il pourra repartir avec une place. 0134 70 47 47, trêve de plaisanterie. La question est combien de branches y a-t-il sur cet arbre
qui s'appelle Yggdrasil.
Et vous pourrez repartir avec une entrée gratuite pour le prochain atelier de Véronique Brechler, qui sera de créer une sculpture, de faire une sculpture avec du bois flotté.
C'est ça, avec de la peinture, du vernis, parce que peut-être on pourra exposer notre sculpture en extérieur. Donc on vernira notre sculpture pour qu'on puisse l'installer en extérieur si on veut la présenter dans une commune où on sera invité.
Vous proposez des ateliers à l'extérieur et à l'intérieur également dans des salles ?
Oui, c'est ça.
À l'extérieur, c'est plus l'été ?
C'est plus l'été, puis ça se passe surtout en forêt.
Waouh, ça c'est bien,
oui,
ça, c'est apaisant.
Tout à fait.
Quel est le retour des participants après un atelier ?
Certains sont surpris parce que ne connaissaient pas et en fait ils sont arrivés un petit peu par hasard et ça a été la surprise pour eux de découvrir le bien-être d'être en groupe, le bien-être de la créativité, le bien-être du chant, de la danse, de toutes ces activités que l'on ne fait pas assez et qui apportent tant de bon. Et puis d'autres connaissent déjà, parce que je ne suis pas la seule à faire des activités bien-être actuellement, hein, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus.
Vous collaborez avec d'autres thérapeutes ?
Oui, dans mon association, on a plusieurs praticiens qui viennent.
Vous êtes à combien ?
Alors aujourd'hui, on est 6 et on attend que ça, d'autres praticiens qui pourraient venir également agrandir notre association.
Est-ce qu'il y a un secret pour pouvoir proposer de l'art-thérapie ? Parce qu'il y a plusieurs méthodes. Quel est votre secret à vous ?
Je pourrais dire qu'il faut faire confiance parce que l'art-thérapie, ça peut faire peur ou ça peut attirer, j'imagine. Et pourtant, c'est vraiment un outil où on peut venir sans aucune connaissance et juste attendre et voir ce qui peut se passer en soi. Parce qu'on peut se découvrir vraiment au niveau du langage, on peut se découvrir au niveau du corporel, on peut se découvrir au niveau de la créativité. Vraiment, on peut venir nu de toute connaissance sur soi et repartir avec de vraies belles découvertes. Et puis, elle partage, hein, le partage ensemble. Il y a une alchimie qui se présente, le fait d'être ensemble. Il y a l'inconscient collectif aussi. Voilà, un groupe ne sera jamais le même. Le fait qu'il y ait une personne en plus, le fait qu'il y ait une personne en moins, le fait qu'il y ait différentes personnes à chaque groupe, on pourrait écrire un livre sur chaque histoire et chaque groupe.
Lorsque vous proposez des ateliers, par exemple avec le bois flotté, qu'est-ce que vous faites de tout ce qui en ressort de l'atelier ? La dernière fois, vous avez fait des masques à Persan, aux terrasses d'été. Qu'est-ce que vous en avez fait, des masques ?
Alors, j'ai proposé à chacun de repartir avec leur masque. Et pour ceux qui voulaient le laisser, on l'a exposé dans le centre social.
Ça vous arrive d'en garder ?
Oui, alors ça c'est...
Vous avez une pièce remplie de consacrer
ça. Ça c'est mon projet, j'aimerais avoir un jour un lieu où je puisse exposer et entasser aussi toutes ces belles créations que j'ai pu récolter sur mon chemin. Oui, j'aimerais bien un jour être dans une grande ferme avec un espace indépendant où je pourrais exposer. Ça, c'est un projet.
La place de la parole est essentielle dans vos ateliers ?
Oui, absolument. Bonne question, puisque... Alors, quand les personnes ne se connaissent pas, donc on y va doucement, c'est plutôt moi qui parle. Ensuite, on crée le travail qui était prévu, donc guidé par... par moi-même, et ensuite on fait un temps de parole parce qu'on exprime ce qui s'est passé pour soi, et là les langues se délient, et en fait en entendant chacun parler, ça peut donner aussi des ouvertures à soi-même. Donc le groupe, c'est vraiment un vrai travail pour soi et ensemble. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, je leur propose de venir découvrir. C'est vraiment un atelier tout en douceur. Il n'y a pas besoin de savoir-faire, vraiment. Ça, c'est le plus important. Il n'y a pas de jugement. C'est vraiment un endroit où on vient libre de pensée, de parole. Et on laisse faire les choses, on lâche prise. C'est vraiment un endroit où les personnes qui sont trop dans le mental actuellement, trop pris par le travail, pris par les problématiques, peuvent venir vraiment se libérer et apprendre à lâcher prise et laisser les choses se vivre.
S'exprimer en laissant sortir ses émotions.
C'est ça.
Véronique Prechler, merci de votre intervention. Si on veut avoir plus de renseignements, est-ce que vous pouvez laisser votre site ?
Atelier Psycho Bien-être. Sinon, mon téléphone peut-être aussi ?
Oui, bien sûr.
Alors 06 48 13 15 98. Les ateliers, lorsqu'on est en groupe, se font à Magny-en-Vexin. Quand on est des petits groupes, ils peuvent se faire à Parmain. Voilà, suivant le nombre et la proximité des participants. Voilà, j'ai une petite salle à Parmain et une salle bien plus grande à Magny. Donc suivant le groupe, on choisit le lieu.
C'était l'art thérapie bien-être, une émission présentée et proposée par Véronique Prechler, psychosomatothérapeute avec comme spécialité l'art thérapie.
Pour tous ceux qui n'osent pas et pour tous ceux qui ne savent pas.